Aujourd'hui, comment passer du chaos au paradis en structurant ton management ? Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on rencontre un super entrepreneur, Romain Bouissou, de l'entreprise CRC Formation. Romain a fait un post sur le forum qui m'a intrigué. Ça s'intitule « Feedback perso, oui ça marche ». Et il y décrit comment il est passé d'une micro-entreprise tout seul derrière son PC à une belle entreprise florissante, tout en ayant pris le Covid de plein fouet. Ce qui m'a intéressé chez Romain, c'est son humilité, son pragmatisme, sa simplicité. Il a commencé en faisant totalement confiance aux préceptes de l'entreprise libérée, puis il a structuré à la mode outil du manager. Je pensais que ça pourrait vous intéresser. Et en plus, il parle de miracles. Alors, on y va, et si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez le lien vers le post de Romain en descriptif de ce podcast. Bonjour Romain.
Et bonjour Cédric.
Comment vas-tu ?
Ben très bien, merci de me recevoir.
Alors, tu te situes où ? Je note un petit accent qui n'est pas tout à fait le mien.
Écoute, on se situe à Toulon.
Voilà,
c'est ça. Sud de la France, voilà. Le soleil malgré du vent.
Comment ?
Un peu de soleil aujourd'hui, mais venteux.
Ouais, nous c'est pourri à Calais. D'habitude, il fait toujours très très beau, mais pas aujourd'hui. Alors, on se voit parce que j'ai beaucoup aimé ton post sur le forum outils du manager, sur le forum public. J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait chaud au cœur. Ton post s'appelle « Feedback perso égale oui, ça marche ». Et ça m'intéresse vraiment. Et c'est ça qui m'a donné envie de te parler. Alors, pas tellement parce que je doute que ce dont je parle dans mes formats actions fonctionne, mais parce que c'est toujours intéressant pour moi et puis pour les auditeurs de savoir comment ça a pu être mis en application. Je vois vers le milieu de ton poste, tu mets hop, ni une ni deux, je me suis connecté à ODM, j'ai sorti la carte bleue et j'ai mangé des journées entières, les formations
MPO.
Voilà les soirées, les journées, MPO, CPR, RDE, TBD, 1-1 Express, etc., etc. Et en fait, c'est ton témoignage qui nous intéresse. Et peut-être que pour démarrer déjà, tu pourrais nous dire un petit peu, te présenter, savoir ce que tu fais dans la vie et comme tu es chef d'entreprise, ce que font tes entreprises.
Tout à fait. Je vais expliquer un petit peu la genèse, comment je suis aussi venu à Outils du Manager. Donc, Romain Bouissou, effectivement, je dirige CRC Formation, plus une autre structure depuis un an qui s'appelle Sopropre, une entreprise de propreté. Donc, j'ai 39 ans, je suis jeune entrepreneur, hein, ça fait 3 ans que je dirige les structures. Et donc, mon passif, j'ai eu la chance d'intégrer une société pendant 15 ans. On était dans la distribution de produits chimiques, produits d'entretien, dans une boîte qui appartenait à un groupe. Le groupe faisait 150 millions d'euros, donc belle structure. Pendant 15 ans, donc, je m'occupais de la distribution de produits d'hygiène destinés aux entreprises de nettoyage, aux hôpitaux, aux cuisines centrales. Et très jeune, je crois qu'à 21 ans, on a obtenu un gros marché qui était sur les armées, la gestion des produits pour les armées du sud de la France. Et dans ce marché, on était venu et obligé de faire de la formation. Donc au début, à 20 ans, j'explique ça pour qu'on comprenne après le contexte de la suite, pourquoi, comment j'ai ouvert la boîte, comment je suis arrivé à toi après, par la suite.
Bien sûr.
Donc au début, donc gestion de la formation, 20 ans, 21 ans, pas trop à l'aise. Bon, j'étais accompagné par des fournisseurs. Les fournisseurs avec qui on travaillait, c'était Procter & Gamble, donc 60 milliards d'euros, enfin, des grosses boîtes, Diversey, Lotus, Stork, etc. Donc on était au niveau accompagnement marketing, management, etc. Les gars étaient bien en place, quoi. Ouais. Donc, accompagné par des responsables de secteur sur les formations. Et puis, je crois, troisième formation, très tôt. En plus, c'était l'intervention sur le Charles de Gaulle. Tu vois, le portail Charles de Gaulle.
Ah ouais.
Le mec m'appelle une demi-heure avant d'intervenir. J'étais à l'entrée de l'Arsenal de Toulon. Il m'appelle, il me dit, écoute, je suis malade, j'en peux plus, je peux pas intervenir.
Voilà. Oula.
Bon, Voilà, exactement. Et si tu veux, j'ai quelque chose qui est ancré en moi et aussi sur les boîtes, ça se répercute aussi sur les boîtes, c'est que j'ai horreur de faire défaut à un client ou à un rendez-vous ou des choses comme ça. Et puis là, je dis, bon, mais qu'est-ce que je fais? J'avais le rétroprojecteur dans ma sacoche. J'avais vu deux formations, donc c'était quand même des micro-formations d'une heure, 1 heure et demie sur la sécurité et l'utilisation des produits. Et je dis, j'y suis, bon, ben j'y vais, on va tenter. Donc, je ne demande même pas l'autorisation à ma direction, rien. Je vais au Charles de Gaulle, je me retrouve face à 40 mecs, des vieux loups de mer de l'époque.
Le baptême du feu, quoi.
À baptême du feu complet, etc. Bon, le stress maximum. Écoute, je fais la formation, ça se passe super bien. Et à la fin de cette formation, j'ai réellement une révélation. Enfin, ça a changé quelque chose sur la vision que j'avais de mon futur. Mais bon, ça restait ancré en moi, tu vois. Donc, j'ai continué 1 an, 2 ans, 3 ans à gérer mes portefeuilles clients, à continuer à faire de la formation. Et j'appréciais énormément cela. J'arrivais dans ma boîte, au bout d'un moment, donc arrivé à 25 ans. Non, j'ai une bêtise, attends, 30 ans. Ouais, à 30 ans, j'arrivais, je voyais mon dirigeant, les entretiens annuels. Donc, la boîte dans laquelle on bossait, 50 personnes, entretien annuel. Ça et j'arrive, je lui dis écoute, moi la formation ça me plaît énormément, d'accord, j'ai la gestion de fichiers, mais viens, on essaie de monter quelque chose sur la structure. Je te gère un pôle formation en interne. Bon, on fait
Intrapreneur.
ouais,
Intrapreneur, en fait.
intrapreneur, ouais. On peut dire ça comme ça. Donc, je lui dis écoute, viens, on monte ce service là. Bon, finalement, on me fait comprendre que je suis mieux, c'est plus cohérent que je reste au commerce. Ok, bon, ben continue, petite déception, hein, inconsciente. 2 ans après, je reviens, nouvel entretien, le dirigeant reprend, tiens, tu m'avais demandé la formation, etc. Oui, ben je veux, viens, on monte ça, l'avenir est dans la formation, il y a de la demande, viens, on fait quelque chose. Bon, non, tu restes au commerce, ok. Voilà, bon, ça continue, je crois que je fais 3 fois, ils essayent quand même enfin, j'ai quelqu'un dans l'entreprise qui me dit, ben tiens, on va faire venir, c'était la préfecture, je crois, hein, qui donnait les agréments à l'époque. La préfecture vient, le mec m'audite, il regarde tous mes process, il dit, oh, génial, c'est bon, on peut vous donner l'agrément. Je reviens 2 mois après, je crois que c'était l'ARH, je reviens vers l'ARH, alors on a eu l'agrément, bon, ben écoute, non, t'as rien eu, bon, je comprenais pas. Et puis, le groupe se fait racheter, par Bunzl. Bunzl qui est leader européen, donc on passe de 150 millions à 10 milliards. Tu vois,
OK.
Bunzl qui arrive, et là, je me dis, bon, mais deux solutions. On se fait racheter, c'est l'actionnaire qui arrive en interne, donc tous nos avantages, ça va disparaître. J'avais ça en tête, la formation. J'ai écoute, enfin, je regarde ma femme, je dis, bon, c'est le moment, voilà, s'il y a quelque chose à faire, c'est le moment. Bon, on venait de construire, je venais d'avoir un deuxième enfant. J'essaie de valider ça auprès de ma femme en amont, je lui dis bon écoute, ce qui peut nous arriver c'est de tout perdre et d'aller vivre dans une caravane, ma femme elle me dit bah, tant pis je te suivrai, donc là inconsciemment facteur déclenchant, ben, je me lance, donc j'ouvre une structure, donc j'avais rencontré quelqu'un, ça se fait très rapidement, j'avais rencontré quelqu'un qui était elle aussi un peu dans la formation, elle me dit bien, on s'associe, on fait quelque chose. Ça me permet de
D'accord.
rebondir sur le dernier podcast que tu as fait sur les pactes d'associés. Il n'y avait pas de pacte d'associés, ça a été la catastrophe.
Aïe.
Voilà, ça a duré, donc c'était en
Bon, les
2010.
packs d'associés, c'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils disaient les personnes que j'avais invitées dans le podcast, c'est qu'en fait, en général, ils ont écrit un bouquin sur les packs d'associés, et le problème, c'est que souvent, on se met à lire le bouquin une fois que c'est déjà la catastrophe, alors qu'il faudrait le lire avant. On va le redire à nouveau. Si vous envisagez de créer une entreprise, écoutez ce podcast ou achetez le bouquin ou les deux, mais vraiment faites un pacte d'associés. Faites un pacte
Obligatoire.
d'associés. Obligatoire.
Obligatoire, ça a été une catastrophe sans nom. Parce que c'est toujours pareil, tu veux t'associer, ben c'est comme un contrat de mariage, tu marches sur la confiance, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, tu as beau écouter tout le monde autour qui dit non, mais fais un pacte, ça ne marchera pas. Tu te crois toujours meilleur que les autres. Tu te lances comme ça, bon, catastrophe, ça a fini. Donc, c'est en 2018. On a les agréments janvier, février 2019. Donc, si tu veux, je gérais moi la partie. Commerce, je gérais la formation, donc j'ai travaillé directement sur ce que je savais faire, hein, l'hygiène, la sécurité, le nettoyage, l'entreprise de propreté, un peu de restauration, d'hôtellerie, sur toutes les normes d'hygiène. Et donc je faisais le commerce, je faisais le Tour de France, etc. Et puis bon, ça a vite clashé parce que c'était pas cadré. Et je me suis rendu compte très rapidement que mon associé était mieux au bureau, à faire les choses et à partir en week-end avec le compte de la boîte, etc. quoi, tu vois.
Oh là là,
Donc, ouais, voilà, catastrophe, ça finit avec. Ça a mal fini. Ça a mal
ouais.
fini.
Parfois,
Donc,
en fait, le pacte d'associés, d'ailleurs, il permet de se rendre compte qu'on va pas s'associer.
ben, clairement.
Quelquefois, ça permet d'éviter ça. Même un bout de papier qu'on se fait entre nous, même si vous n'avez pas envie de faire un pacte d'associés, faites au moins ce petit bout de papier qui juridiquement vaut pas grand-chose, mais vous signez en bas. Ça permet d'avoir cette discussion, en fait.
Non, clairement, alors après, donc vachement échaudé hein, par l'association, mais ça ne m'a pas empêché de m'être associé sur une autre structure, mais avec un pacte d'associés, et ça se passe extrêmement bien. On est parti en vacances à 10 jours, d'ailleurs, grâce aux formations, hein, parce que j'ai réussi à libérer du temps. On en parlera un petit peu plus tard, mais je suis parti avec mon associé qui est extraordinaire. Et puis bon, on a déjà tout cadré, ça a été le deal. Il est venu me chercher, je lui dis, écoute, pas de problème. On fait un pacte, on écrit noir sur blanc, tu restes le patron de la boîte, moi je reste juste derrière, je ne veux voir aucun salarié, aucun client, mais je vais rester sur du pilotage, etc. Bon, ça fonctionne très bien comme ça, il faut toujours un maître à bord, je pense. Un seul capitaine à bord. Et puis voilà. Donc, je récupère la boîte, si tu veux. On arrive à faire des négociations quand même, parce qu'on était à 50-50 associés sur CRC au début. Compliqué, bien sûr, tout le monde se braque, la boîte n'avance plus. Bon, il y avait de la bien sociaux de la part de l'associé. Donc, c'est rentré dans les négociations. J'ai dit, écoute, je reprends la boîte, tant pis. Récupère tous les clients si tu veux. Tu récupères tout, juste une signe, je garde la boîte. J'avais à l'époque une salariée et je venais de prendre un local. Donc, je repars mai 2019 à 0 euro de chiffre avec une salariée, un local. Moi, il me restait 3-4 mois de chômage parce que ça, c'est un gros avantage aussi, en fait. Je ne sais pas si tu en parles après sur les podcasts, mais toutes les aides au développement et à l'ouverture d'entreprise avec tout ce qui est ARE, ACRE, etc., qui est exceptionnel. Donc, il me restait du chômage. Pardon, tu disais?
J'en profite pour dire, parce qu'on en a parlé en off, chez Outils du Manager, les formations qu'on vous propose, elles sont, il y a la possibilité de les faire prendre en charge par des aides de l'État, puisqu'on est certifié, on est Qualiopi, on a un agrément, etc. J'en profite pour le dire.
Félicitations, parce que ce n'est pas évident.
Non, mais en fait, je pense qu'on avait déjà plus ou moins les bons process en place, en fait. Peut-être on ne l'avait pas bien formalisé, ça nous a permis d'ailleurs de le formaliser. Donc, tu redémarres
Donc, je
avec ton
redémarre en mai
petit
2019
ordinateur.
avec une salariée. Bon, je repars de zéro. On arrive à bricoler, à faire du chiffre. Le but, c'était l'urgence de payer les salaires. Payer les salaires, de payer les locaux,
Trésor, quoi.
etc. Ouais. Donc je repars, je fais le tour, le commerçage, je récupère quelques clients, on avance, bon, on clôture l'année, je clôture l'année à 120 000 euros, tu vois, j'étais content, mai 2019, décembre, je fais 120 000 euros. On repart, repart, on fait une réunion, bon, on était trois salariés, j'avais intégré une ADV, une assistante, secrétariat, assistante de vente. On repart et bim, crise Covid, quoi. Crise Covid, tu connais la difficulté aussi des règlements CPF. À l'époque, au début, quand ça s'est mis en place, très compliqué. On avait
Non,
six mois de délai hein, de règlement. Donc, je rentre dans le Covid, heureusement, chômage partiel. Mais catastrophe, plus de finances, etc. Donc, les premiers jours, je m'attaque à essayer de récupérer les paiements pour pouvoir survivre au Covid. Un mois avant l'entrée Covid, je venais de recruter un contrat pro en marketing, montage vidéo, création de contenu, mais toute partie marketing, design, etc. Tu vois, pour faire des protocoles de nettoyage, pour monter de la vidéo, parce qu'on fait un petit peu la même chose que toi sur la vidéo technique. Et du coup, Covid, bon, catastrophe, tu tournes en rond, tu dis, bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va être mangé aux petits oignons. C'est la catastrophe. Mais bon, ça faisait quelques temps que je réfléchissais à monter une formation. Enfin, je commençais déjà à créer du contenu parce qu'on a une plateforme en ligne aussi. Donc, je crée 80% du contenu. Pendant 2 ans, je l'ai créé moi-même sur toutes les formations. Donc, j'avais déjà entamé les formations sur le nettoyage industriel. Tu vois, j'avais déjà pas mal de contenu là-dessus. Et au bout d'une semaine, une semaine à faire des nuits blanches, hein, comme tout le monde, je pense, je me dis, écoute, je vais tenter un truc, je vais réactiver le petit jeune que j'avais, Grégory, qui est toujours dans la boîte. Et je dis, bon, ben, on va créer une formation de nettoyage, désinfection en lien avec le coronavirus. Je fais un état des lieux, j'ai 80% du contenu. J'appelle Grégory, je lui dis, ben, écoutez, on va bosser là-dessus. De toute façon, c'est le dernier coup d'épée. On va tenter, voir ce qui va se passer. Je pense qu'on est un peu dans le thème. Il va y avoir certainement de la demande. Les entreprises vont vouloir être rassurées en faisant intervenir des entreprises de nettoyage qui auront été, entre guillemets, certifiées ou labellisées nettoyage Covid. Donc, on crée ça. Et puis, bon, mais gros carton. Je pense que chacun... souvent, je parlais avec des gros entrepreneurs. J'ai eu la chance de rencontrer des très, très gros entrepreneurs comme Leclerc, passer une journée avec Leclerc, avec Martinez aussi de Darty, etc. Tous arrivent, te disent, c'est du travail et de la chance. Bon, ben, la chance, on l'a saisie à ce niveau-là.
Ouais, voilà. C'est de la chance qui a été saisie. Moi, je dis souvent, il faut juste être réceptif à la chance et disponible pour la saisir quand elle passe. Donc, ça veut quand même dire à la base que tu as des idées claires. Sinon, la chance, tu ne la vois même pas passer, quoi. Si tu ne sais pas où tu vas, la chance, tu ne la vois pas passer, en fait.
Ouais, je pense. Ouais, il faut écouter son marché. Effectivement, il faut écouter son marché. Il faut être là au bon moment, au bon endroit. Donc, je savais que j'avais les outils, je savais que j'avais la technique, je savais que j'allais pouvoir répondre, que j'allais avoir un produit qui allait être bon, parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant 15 ans, je maîtrisais totalement. Donc, j'avais pas non plus dans l'inconnu. Bon, on réactive ça et on crée, ben, on se met à bosser 15 heures par jour, boum boum, à finaliser. Je me dis, bon, vite qu'on la mette en ligne. Alors, on s'était mis une petite deadline, c'était bien marrant d'ailleurs, parce qu'on s'était mis une deadline, c'est le 9 mars. 9 mars à 9h, 9 avril à 9h, j'avais fait des préventes, chose qu'on ne fait jamais dans la formation, enfin à mon niveau, j'avais jamais fait ça. Je m'étais amusé.
Donc des préventes, ça veut dire que tu vends déjà la formation alors que tu ne l'as pas tout à fait finalisée en fait.
Tout à fait, c'était pour tester le produit en fait. J'ai voulu tenter.
Ça permet de voir comment répond le marché en fait.
Exactement, j'ai mis ça sur site internet, j'avais créé une page. De suite référencé, première page Google, donc on tapait à chaque fois sur nous dès que quelqu'un commençait à réfléchir à une formation sur le Covid. Pareil, on s'était dit de toute façon que les personnes allaient se relancer sur la reconversion, etc. Donc on allait répondre à une demande. Et effectivement, je fais de la prévente et je crois que le lendemain, j'ai déjà 2-3 commandes. Là, je sens quelque chose, donc tu as la jubilation de la création de ton produit, etc. Donc on met les bouchées doubles, on se rend super produit. Et on sort du Covid pour faire simple, je sais pas, avec 1000 entreprises formées, quoi. Donc je rentre. Wow. Covid, c'était extraordinaire quand je pense à la période professionnelle, mais en termes physiques, problèmes mentaux, enfin, en surcharge de travail, ça a été infernal le Covid. On a eu la chance de ne pas l'avoir passé. En plus, je réactive un peu tout le monde. On est trois à bosser, à intégrer tout le monde. Je passe mes journées à faire des corrections, à répondre aux gens, à passer des coups de téléphone, à répondre tout ça.
Bon, exécutant.
Ouais, tout à fait. Là, c'est un avantage, je veux dire. Cette boîte, je la connais de la première page.
Tu fais quel chiffre d'affaires à ce moment-là, à peu près?
Alors, quand je sors du Covid, on sort, je clôture l'année, alors je fais, décembre, je finis 120 ou 160, et 2020, je finis à 500. 500, ouais, okay. Donc fois 5, en ayant le même volume de salariés, donc je sors de là avec une belle trésor, et je me dis, bon, la trésor, au lieu de me la mettre dans les vacances, on investit sur du personnel. Je dis, bon, la boîte, on veut la mettre
là. Là, il faut structurer.
Ouais. On structure.
Sinon, tu ne peux plus grossir. Hein. Quand tu ne structures pas, quand tu te fais x5 en chiffre d'affaires ou x4, souvent il faut structurer. Sinon, tu crames. Tu te crames et en fait, tu fais comme ça, quoi. Tu repars à ton chiffre d'affaires initial.
Bah, clairement.
C'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Hein. Je ne sais pas si tu as fait la formation Business Accelerator.
Non, je ne crois pas que j'ai faite. Je te dirai laquelle j'ai faite. Je lisais sur mon
téléphone. Je vois que tu... Ouais. Mais ça s'appelle la traversée. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe avec des entrepreneurs qui restent au stade de la micro-entreprise et qui ne vont pas jusque ce que j'appelle le business de poche, c'est-à-dire business de poche, pour moi, c'est tu commences à approcher les 15 salariés, c'est que tu fais des bons en chiffre d'affaires, puis tu t'épuises et tu repars à ton chiffre d'affaires initial, puis tu refais un bon, puis tu fais tout le temps comme ça. Alors que si tu structures, alors tu charges évidemment ton entreprise et effectivement tu as un autre genre de risque, mais tu peux à nouveau redévelopper en fait. Et le truc, c'est d'avoir ce que j'appelle les traversées du désert les plus courtes possibles. C'est-à-dire de vite structurer pour toujours être dans le coup d'après, en fait.
Ben c'est clairement le cas, tout à fait. C'est clairement le cas. De toute façon, je pense que tu as deux typologies de personnes. Tu as des personnes qui ne veulent pas non plus aussi avoir une belle structure, qui veulent rester à leur rythme, moins de salariés, moins de problématiques. Hein. C'est ce qu'on entend régulièrement aussi quand tu vois des personnes qui veulent rester à... ne pas s'embêter avec le social.
Statistiquement, ces boîtes-là, elles ont trois fois moins de chances de passer le cap des 3 ans ou des 5 ans, je ne sais plus. Hein, y a des études qui ont été faites là-dessus. Oui, c'est plus cool, mais la moindre bourrasque, tu es mort. Quoi.
Ouais, clairement. Non, mais clairement. Et puis, tu as besoin des autres. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Seul, tu vas vite. Plusieurs, tu vas loin. Quoi.
C'est ça.
Sans faire la phrase bateau, mais c'est un peu le cas.
Et donc, tu arrives à 500 000 et là, tu te dis, il faut que je structure.
Ouais, il faut que je structure. Donc, il faut que je crée du contenu. C'est-à-dire, il faut que je crée du contenu. Il me fallait des formateurs, des correcteurs, donc formateurs, correcteurs, et puis de la vente aussi, tu vois. Parce que je me suis dit, tiens, on est essentiellement sur du lead entrant. Il va falloir peut-être un peu améliorer ça et aller chercher du lead sortant. Donc, jusqu'à présent, c'était moi qui le faisais en interne. Mais bon, tu arrives à un moment donné, tu ne peux plus assurer. Alors, la création du contenu, le management, les rendez-vous banque, compta, etc., qui te bouffent la moitié du temps. Donc là, tu n'as plus de vie. Clairement, moi, jusqu'à t'avoir rencontré, donc on en parlera plus tard, mais... c'était la typologie d'entrepreneur traditionnel où t'es noyé, tu sais plus où t'en as, t'arrives le lendemain, tu as ta tonne de boulot, t'es pas organisé, quelque chose qui se rajoute à ta tâche de travail, tu sais plus comment l'aborder, donc tu décales tout, bref.
En fait, au début, cette période-là, elle peut être agréable parce que t'es occupé, surtout quand tu sors du Covid, t'es occupé, t'es galvanisé, t'as plein de trucs à faire, c'est toi qui es responsable de tout, c'est toi qui prends les clients, les fournisseurs, la banque, tout ça, c'est nouveau, c'est super excitant. Et un an après, t'es cramé. Et un an après, tout d'un coup, t'arrives même plus à sortir de ton lit, ou bien tu te rends compte qu'en fait, t'es épuisé, et que dès que t'arrêtes, en fait, ton business ralentit. Et en fait, tu viens de créer en fait, ton piège. Et bon, faut pas aller jusque-là, moi c'est mon conseil, mais même si vous allez jusque-là, c'est pas perdu, parce que finalement, ça va vous obliger à structurer. Après, le problème, je sais pas ce qui t'est arrivé, mais souvent le problème, c'est quand tu commences à structurer, en fait, ça te donne plus de travail, puisque t'as du management en plus à faire, donc t'as l'impression que tu recules encore. Comment ça s'est passé pour toi cette période-là en fait?
La période très simple, donc on a vite intégré du monde, on s'est retrouvé, on est sorti de la 3-4, on est monté fin 2020, on a fini à 6-7 personnes. Donc j'avais lu dans des bouquins déjà qu'à partir de 6-7, ça allait être compliqué, qu'il fallait commencer à mettre du management, parce que tu te retrouves finalement, comme tu le dis très bien, tu n'es jamais satisfait de... Alors je suis toujours très satisfait de mes collaborateurs, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais... tu veux toujours regarder, toujours comprendre, donc tu t'infliges une surcharge de travail.
Ouais.
Et j'ai très vite compris, mon défaut, c'était le management. Et malheureusement, c'est un défaut. T'as soulevé une clé en moi personnellement en disant, je crois que je l'avais écrit sur le podcast, on ne naît pas manager, on le devient. Moi, j'avais toujours cette idée-là que le manager, c'était un gars qui sortait de l'école, qui avait fait 4 ans de management, qui avait tout appris sur toutes les gestions, etc. Et moi, j'avais pas ça. Alors, pourtant, j'ai joué au rugby pendant des années. Je me suis retrouvé capitaine de boîte, d'équipe, tout ça. Je me suis dit, bon, le management, je dois connaître, ça va. J'ai réussi à gérer 14 bourricots. Je vais arriver à gérer des collaborateurs, etc. Mais en fait, non, tu te retrouves perdu, quoi. Tu te retrouves perdu à pas savoir, à donner des objectifs. Alors, on avait tous une vision commune. On avait tous un objectif. Tout le monde se sent très bien dans la boîte, mais pas de métrologie, pas de gestion, etc. À cela se rajoute, vu qu'on grossit vite, tu intègres beaucoup aussi de personnes rapidement, tu n'as pas le temps de l'accompagner, Donc, tu recrutes quelqu'un, tu le mets en place, c'est un échec. Et en plus, tu le recrutes mal. C'est-à-dire que tu vas recruter à la méthode au feeling, tout ce que tu détestes. Hein, tout ce que tu détestes. Alors, j'ai mon avis aussi, j'ai mon point de vue là-dessus. Ça a quand même réussi. Après, c'est 1 sur 10, on va dire.
Alors, tu vois, moi, je suis encore plus optimiste que toi sur la méthode au feeling. Je dis, c'est 1 sur 2, peut-être. Mais c'est le plus gros investissement que tu vas faire. Est-ce que tu accepterais d'acheter une machine à 200 000 euros ? Parce qu'un salarié, ça coûte 50 000 par... en moyenne, hein, c'est le niveau médian hein, par an. Je pense que tu vas le garder au moins 4 ans. Enfin, c'est ce que tu espères. Donc, c'est un investissement à 200 000. Et ça, c'est le médian, sans compter le temps que tu vas passer, etc. Est-ce que tu accepterais qu'un fournisseur vienne te dire « Monsieur, achetez ma bécane à 200 000. Elle a une chance sur deux de marcher. Hein, si elle ne marche pas, vous la mettez à la benne. » Non, tu accepterais. Et pourquoi tu acceptes en termes de recrutement ? Bah parce que tu te dis, ouais, mais c'est normal, le recrutement, c'est pas pareil, c'est de l'humain. Et moi, je dis, mais justement, comme c'est de l'humain, que c'est risqué, que c'est lourd de conséquences si tu te plantes pour la personne, pour toi, pour ton équipe, etc., il faut être encore plus rigoureux et rationnel sur le recrutement que si c'était une machine. C'est pour ça que je dis ça, tu vois. Je dis pas qu'il n'y a pas une part de valeur, de relationnel quand tu fais un recrutement. Oui, évidemment, ça va être hyper important pour la suite et ça fait partie des critères. Mais plus tu vas rationaliser cette partie-là, plus tu as de chances de réussir et de ne plus être sur le pile ou face classique d'un recrutement. C'est juste ça, en fait, que je dis.
C'est souvent le cas quand tu n'es pas formé. Donc, j'ai très vite compris où étaient mes points faibles. Donc, management, recrutement, gestion d'objectifs. C'est-à-dire que oui, d'accord, j'ai un objectif, les gars, regardez, on va sortir telle formation, etc., on a la qualité pour le faire en interne, vous êtes d'accord, oui, pas de problème, bon, on finit ça à quelle date, dans 2 mois c'est terminé, ok, lance la formation, et puis tu te retrouves 6 mois après, pas d'avancement, prise de tête quotidienne, personnel, en fait, c'est toi en tant que dirigeant, tu te dis, attends, comment on n'y arrive pas, pourquoi ils n'y arrivent pas, moi j'ai réussi à sortir ça, j'ai réussi à faire ça, et les gars ils sont 3 en train de créer ça, ils n'y arrivent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Donc tu es frustré, tes collaborateurs sont frustrés, etc. J'abordais ça il y a même à un moment donné dans une discussion, alors on est une boîte ultra bien, j'ai pas eu, tu vois, je suis très content, pas eu d'émission dans la boîte, on est très bien sur la structure, j'ai des collaborateurs qui sont extraordinaires. Mais on est tous très francs du collier, c'est une valeur dans la boîte que j'oblige à mettre en place. Savoir écouter les choses, mais même à mon niveau, hein, si j'étais Bill Gates, on serait pas là. Hein. Donc, vous inquiétez pas, j'ai des choses aussi à apprendre. Par contre, voilà, je sais où on va, je sais ce qu'on doit faire, je comprends le marché, etc. Mais...
je suis d'accord. Tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Souvent, en fait, effectivement, tu es entrepreneur et tu comprends pas pourquoi... tes salariés, ou tes managers d'ailleurs, hein, ça arrive aussi aux managers, tu as l'impression qu'ils sont moins performants que toi. En fait, et d'ailleurs, c'est pas que tu te sentes supérieur à eux, c'est juste que tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Parce qu'en général, les entrepreneurs et les managers que je connais comme toi, c'est des gens plutôt humbles, qui considèrent pas qu'ils sont meilleurs que les autres. Et justement, comme ils ne considèrent pas qu'ils sont meilleurs que les autres, ils se disent « Mais pourquoi ça ne va pas plus vite ?» En fait, j'étais tout seul, maintenant on est 5, ça devrait aller 5 fois plus vite. Ben non, pourquoi ? Ben parce que juste, il y a la friction de communication, et les objectifs, et la complexité. Et en fait, c'est ça que tu vas devoir gérer, c'est des outils simples pour gérer la complexité. Exactement. Et il y a un autre truc que tu mets dans ton poste, je ne sais pas si tu voulais en parler à un moment, c'est que tu étais assez influencé par la méthode de l'entreprise libérée.
Ouais, clairement. Clairement, avant de monter la boîte, tu réfléchis, tu essaies de lire des choses, de comprendre la vision de ta boîte, comment tu veux qu'elle soit, comment tu veux que les salariés se sentent à l'intérieur. Et c'est vrai que j'étais tombé sur l'entreprise libérée, donc je faisais le parallèle avec la société dans laquelle j'étais, où tu avais plusieurs cellules, avec des managers qui n'étaient pas forcément compétents pour l'être, et qui manageaient d'une certaine manière... qui manageait par l'autorité.
Ouais, pouvoir hiérarchique, en fait.
Pouvoir hiérarchique, etc. Pas forcément la bienveillance. qui bloquait l'information entre le dirigeant plus le salarié, en fait, tout ce que je détestais, tout ce que je ne voulais pas. Donc effectivement, l'entreprise libérée pour moi, c'était
l'inverse.
Pilotage inverse, pas d'hierarchisation, etc.
C'est ça.
J'ai cru à ça et donc de ce fait de mettre en place la totale autonomie. Mais finalement, tu te rends compte que non. Alors, je pense que c'est la culture française qui veut ça. Nous, dans notre boîte, bon, là, maintenant, actuellement, on est 14 sur CRC, mais j'ai de 21 ans à 59 ans. Et tu te rends compte que, effectivement, c'est la culture française. C'est même pas une question d'âge ou de choses comme ça ou d'expérience. C'est qu'on a besoin d'être orienté, d'être accompagné. Et pour revenir aussi à l'abandon, à un moment donné, je discute avec des salariés, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, on a l'impression d'être abandonné quand même, parce qu'on nous donne ça, et puis vous revenez une semaine après en me disant qu'il faut refaire ça, mais on ne comprend pas, etc. » Et là, d'un seul coup, je dis « Non, mais stop. » C'était un chaos psychologique que je vivais depuis un an et demi.
Je me suis dit, en fait, l'entreprise libérée, tu vois, c'est formidable, je trouve, d'avoir cette utopie dans la tête. Je trouve que c'est vraiment intéressant de lire des bouquins là-dessus parce que ça parle beaucoup d'autonomie. Après, là où je suis moins en phase, c'est que, en fait, je compare ça au... En fait, l'entreprise libérée, elle pointe ce qui ne va pas dans les grosses structures. Ça, c'est clair. Pour ça, c'est vraiment utile, ce modèle, de se dire, tiens, c'est l'opposé, en fait, du modèle qu'on n'aime pas. Quand on a beaucoup d'ambition en termes humains, etc., ça nous dit qu'il y a une autre voie qui est possible. Là où c'est un peu moins riche, le concept de l'entreprise libérée, c'est en termes d'outils techniques. En fait, on te dit bah, ça marche, mais on ne te donne jamais les outils. En fait. On ne te dit jamais comment ça marche. On te dit ça peut marcher. Et c'est là où c'est dangereux. Moi, je crois à quelque chose qui est entre deux, en fait, finalement. C'est-à-dire que je crois que la structure libère. C'est-à-dire que je crois que ça libère à la fois le dirigeant que de mettre des rituels pour tout, pour le recrutement, pour le management, pour les objectifs, etc. Ça le libère parce que quelque part, c'est comme si tout ça s'était pris en charge par le modèle. Et ça libère aussi les collaborateurs parce que ça détermine là où démarre leur autonomie et là où elle se termine. Et finalement, à l'intérieur de cette structure, il y a beaucoup plus de liberté peut-être qui en aurait dans une boîte où tout est flou, où on ne comprend rien, où on ne sait pas qui on doit aller voir pour telle chose, où, moi, ce que j'ai observé dans pas mal d'entreprises libérées que je connais, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un pouvoir qui se met en place, qui est un pouvoir qu'on peut pas déterminer. Il y a une espèce de pression sociale qui se met en place.
Avec les profils aussi. Si tu as les mauvais profils aussi, tu mets un dominant sur des équipes consciencieuses ou stables. Alors, c'est des choses que j'ai apprises avec toi, bien évidemment. Ouais. Et c'est flagrant. Après, tu vois un petit peu tout l'ensemble, tu balayes tout l'ensemble de tes salariés, tu vois ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a eu des licenciements aussi dans les structures. Tu dis, tiens, pourquoi lui ça n'a pas marché? Mais oui, mais regarde, il est dominant, il voulait écraser l'autre alors qu'il n'avait pas forcément la compétence, etc. Et si tu ne cadres pas ça, si tu n'es pas au courant, si tu ne comprends pas tous ces systèmes-là de management au sein des boîtes, tu ne peux pas avancer. Et donc, pour rebondir après sur les pilotages de formation, j'ai de suite compris qu'il me manquait ce volet-là. Donc, on est passé par outil du manager, suite à l'écoute de tes nombreux podcasts aussi.
D'accord.
Et ce que j'ai apprécié très rapidement, c'est la mise en place immédiate des outils. Donc, j'ai commencé... alors, le 1 plus 1, ça faisait longtemps déjà que je l'avais écouté avec toi, ce podcast. J'ai commencé à mettre en place le 1 plus 1 avec les podcasts. Et... déjà, à ce moment-là, c'est là où les personnes commençaient à me dire « Ouais, mais on n'est pas accompagné, il faudrait peut-être un peu revoir les objectifs, etc. etc. » Et donc, j'ai dit « Bon, bah, allez, je passe le pas, je sors la carte bleue, comme j'ai dit, je sors la carte bleue et je prends les formations. » Donc, il me manquait la gestion de projet, parce que j'avais un énorme projet à mettre en place. J'ai des objectifs en 2022 sur l'acquisition d'une société. Je me suis dit, il faut que je me libère du temps, il faut que j'arrive à bien piloter déjà CRC pour pouvoir me lancer sur l'autre. Et donc, on est rentré sur les formations, je reprends les thèmes.
Donc, la gestion de projet, c'est CPR, c'est chef de projet relationnel. Et en fait, c'est une formation, on parle un peu de la structure d'un projet, évidemment, Bon, on parle surtout de la communication à l'intérieur d'un projet et de la communication selon les profils des personnes qui travaillent pour toi. Et c'est très, très important. C'est presque plus important que la structure. Moi, c'est mon observation. Alors, parle-moi un peu de ça. Est-ce que tu confirmes, en fait, cette chose-là?
Ah ben, clairement, déjà, je confirme déjà, tu identifies bien aussi les salariés à qui tu as affaire. Donc, pour pouvoir ensuite bien orienter tes 1 plus 1. À cela, j'ai ajouté, moi, le management en 3 temps.
Ouais, et le management par objectif.
Par objectif en 3 temps. Et là, ça a été, je crois, le plus impactant chez nous, clairement, à rajouter au 1 plus 1. On a bien suivi étape par étape ce que tu conseilles, hein. Donc la réunion, alors la réunion on en faisait des bonnes, mais une fois par an, ou sinon on faisait un kick-off tous les 6 mois, mais les gars ils sont, la problématique c'est que tu vas faire la réunion, tout le monde est bien lancé à la sortie de la réunion, ça va durer 10 jours, 15 jours, et après bon tu repères la motivation.
Le risque c'est que tu aies de la motivation mais pas d'exécution en fait.
Ouais, tout à fait, donc... Management 3 temps, donc la stratégique, tactique, terrain. Donc en gros, comment j'ai piloté ça, c'est qu'on avait des thèmes de formation, j'ai mis un objectif principal et des objectifs secondaires. J'en ai sorti 10. Et je leur ai quand même, alors chose que tu ne conseilles pas, c'est que j'aurais quand même laissé le choix de savoir, de choisir par quelle formation ils voulaient se lancer. Je voulais tester le process, tu vois. Je me suis dit, bon, je vais quand même leur laisser quelque chose pour qu'ils soient à la fois satisfaits de finaliser une formation rapidement, qu'ils n'aient pas trop de stress de travailler sur un produit qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Je voulais aussi gagner du temps, voir si on tenait les timings, etc. Donc des formations que tout le monde connaissait un petit peu plus ou moins. Et là, extraordinaire, c'est qu'on a calé. Donc j'ai rajouté des outils comme le Gantt, Trello. Donc, le Gantt, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on a dit, bon, je leur ai dit, voilà, stratégique, on va sortir ça. Le but, c'est que dans 90 jours, on ait fini tout le pack que vous avez choisi vous-même, donc que vous allez valider. Donc on a séquencé ça sur.
Non, mais ça, ta manière de faire, elle est puissante, parce qu'en fait, toi, tu es au niveau stratégique, donc tu dis, moi, ce qui compte, c'est que, enfin, je ne sais pas comment tu l'as dit, mais on va imaginer. Dans 90 jours, puisqu'on travaille en cycle de 90 jours dans management par objectif en 3 temps, dans 90 jours, il faut qu'on ait sorti X formations, par exemple. Après, tu descends au niveau tactique, tu dis, OK, maintenant, comment on fait? Et dans le comment on fait, ça peut être eux qui choisissent les formations, qui te disent, on va plutôt prendre celle-là parce qu'on est plus à l'aise. Autant commencer à utiliser ce process avec un truc avec lequel on est à l'aise. Et puis après, tu as le relais terrain qui est toutes les semaines, l'avancement, etc., etc.
Ça a été tout à fait le cas de ce que tu dis. J'aurais quand même laissé le choix de savoir ça, de choisir la formation et les thèmes. J'ai pris une photo. D'ailleurs, je pensais à toi. Je me suis dit, tiens, un jour, peut-être, je vais la partager sur le forum ou pas. Je te promets, dans la semaine qui a suivi la formation, je me lève. On a un bureau. J'ai un bureau où j'ai 4 formateurs à l'intérieur. Bureau vitré, je passe, je les vois tous en train de discuter sur un tableau blanc, en train d'écrire le schéma, etc. Je me suis mis en retrait, j'ai pris la photo, je dis
le pied.
Le pied.
Sur le forum. Franchement,
Jamais. Mais un pied énorme. Je me suis dit, ça fonctionne, ça marche. Le 1 plus 1, dans la semaine suivante, les formateurs arrivent en disant, c'est bon, on sait comment faire, on sait comment ça marche. Génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'aurais dit, je me suis formé, je fais comme vous. Je me suis formé aussi, un super outil. D'ailleurs, j'ai des managers que je vais envoyer. Enfin, pas des managers, mais j'ai une personne qui aimerait peut-être monter en compétences là-dessus. J'aimerais chapeauter ça, mais j'ai pas forcément les bons outils. Je lui dis, je connais une bonne formation, ne vous inquiétez pas, comptez sur moi, je vous mettrai là-dessus. Mais
tu veux dire des gens que tu voudrais former dans ton équipe?
Dans mon équipe. Bon, est-ce que ça vaut le coup? D'ailleurs, je te demande, est-ce que ça vaut le coup justement de faire bénéficier, quelles seraient les formations que je pourrais faire bénéficier à mes salariés?
Ça va dépendre de ton besoin. Si c'est pour vraiment du management, moi, je pense que la meilleure formation, c'est le manager essentiel, LME. Mmh. Et d'ailleurs, dans cette formation, j'explique que même si tu es un spécialiste de la formation, tu ne seras jamais le meilleur formateur pour tes propres collaborateurs, parce qu'il y a quand même cette notion de pouvoir. Tu vois, même moi, dans mes boîtes, c'est pas évident que je les forme. Ça va te paraître bizarre ce que je vais te dire, mais c'est pas évident que je les forme moi-même au management. Et donc, en fait, vaut mieux, effectivement, pour certaines choses, avoir des formateurs extérieurs. Toi, tu coaches, c'est-à-dire que tu vérifies qu'ils franchissent bien toutes les étapes de la formation et tu fais le suivi, etc. Mais après, c'est très dépendant de ce dans quoi tu veux qu'ils s'améliorent. Si c'est sur leur organisation personnelle, alors la formation idéale, c'est système d'organisation réaliste. Si c'est sur le management, parce que tu veux en faire des managers de haut niveau et que tu veux leur déléguer tout, c'est le manager essentiel. Vraiment, pour moi, là, comme ça. Et si tu veux faire de la gestion de projet, effectivement, c'est chef de projet relationnel.
Le disque important aussi, je pense.
Le disque, oui, oui, bien sûr. Le disque, c'est un booster. Mais le disque, ça ne donne pas de structure. Le disque, en fait, la formation, elle s'appelle le mode d'emploi des autres, en fait, le mode d'emploi des collaborateurs. Ça te permet de comprendre comment fonctionne chacun de tes collaborateurs selon son profil, mais ça ne va pas te donner une structure de manager. Ça va te permettre de booster ton management une fois que tu as mis la structure en place, ou de comprendre pourquoi, tiens, c'est bizarre, lui, à chaque fois que je lui dis un truc, il ne fait pas comme je veux, ou il y a un conflit entre telle et telle personne, et comment faire pour résoudre ça. Ça permet de baisser la friction de communication. Mais à la base, ce qui permet le plus de baisser la friction de communication dans une équipe, c'est la structure, c'est le rituel que tu vas mettre en place.
D'accord. Donc voilà, on en est là pour le résultat très rapide aussi sur la gestion de projet. On est arrivé au bout du mois, on avait sorti, donc je parle de janvier, hein, c'est tout récent. Hein.
Ah ouais.
Ouais, c'est tout récent. J'ai mis ça, je me suis formé en novembre, je crois, novembre-décembre. Juste avant Noël, j'ai fait cette petite réunion en disant l'objectif de 2-3 formations. Tout a été bouclé. Les formations se sont, ouais, tout a été bouclé. Les formations se sont vendues. On a des retours. On a énormément sur de l'assurance et de la réassurance, nous, sur les formations, parce qu'on est sur Internet. Donc, pour tous les avis Google, etc. On est sur du 5 étoiles de partout, etc. Donc, extraordinaire, qu'est-ce que tu veux que je dise? La gestion du temps, du planning. Donc, du coup, je me suis retrouvé d'un coup, mais j'ai eu cette réflexion-là. En janvier, au bout d'un moment, je regardais mon agenda et ma journée, il était 15h, je me suis dit, mais attends, mais réellement, j'étais comme ça, je regardais l'agenda, je regardais mes mails, j'ai dit, attends, mais j'en suis où? J'ai oublié, j'ai tout qui est effacé, qu'est-ce qui se passe, j'ai plus rien à faire. Non, ça a été
vraiment... T'étais inquiet,
j'étais inquiet.
C'est sûr, il y a des trucs, ça va s'écrouler, il y a des trucs que je fais pas.
Mais c'est ça.
Non, puis en plus, quelquefois, quand t'es addict et que, un petit peu au travail, et que tout d'un coup, tu te rends compte que finalement, tout d'un coup, tu as une après-midi à rien faire, tu te dis, mais qu'est-ce que je deviens? Qui suis-je? Et le risque, c'est de replonger. Le risque, c'est du coup d'aller emmerder tes collaborateurs, alors que tu viens de créer quand même une équipe qui tourne toute seule. Et eux, ils préfèrent. Ils ne veulent pas que tu reviennes les emmerder. Juste les rituels, quoi.
Les rituels, voilà, les rituels. Donc, une fois par semaine, ils le savent. Hier, quelle journée? Mardi, hier, on a fait. Tout avance bien. Même les 1 plus 1, des fois, je me dis, mince, normalement, ça durerait 30 minutes. Mais allez, sur 30-40% des cas, les 1 plus 1, ils vont me durer 10 minutes. Quoi. Les mecs arrivent, ils me disent, non, tout est parfait. C'est bon, tout va bien. J'ai dit, ok, ouais, mais ton objectif, ben, l'objectif, il est fait. Ok, est-ce que tu as eu un bloquant? Ben non, c'est bon, regardez, on en a parlé déjà il y a 15 jours à la réunion. Terrain, on dépatouille tout ça, donc on a une checklist qui est faite, j'utilise après les outils Trello, on est en partage d'informations entre les formateurs et moi derrière. Donc voilà, pareil pour la cellule marketing, j'ai une cellule marketing communication, community manager, le montage des vidéos, etc. Pareil, on se cale des réunions maintenant une fois par semaine d'une demi-heure. Cale tout à la semaine, tout est géré. Et limite, mon pilotage de boîte, maintenant, il se fait 2 jours par semaine. Même pas 2 jours, je dis bêtise, parce que c'est... Oui, enfin, 2 jours, parce que j'ai les 1 plus 1 toute la matinée du lundi, toute la matinée du mercredi, et les après-midi, je suis en réunion avec eux. Donc, réunion vente, réunion formateur et réunion marketing étalée sur les 2 jours. Mais voilà. Donc, en termes de planification, tout a été cadré avec l'agenda. À surveiller tout le monde, à faire de... C'est extraordinaire.
En fait, il y a un phénomène aussi, c'est que, je ne sais pas combien vous êtes maintenant, mais je pense que tu as dû franchir le cap 14. De ce que j'ai... Combien ? 14, bah, tu vois. C'est pour moi la taille du business de poche. Et un business de poche, en fait, c'est un business qui a suffisamment de redondance à l'intérieur pour que si jamais quelqu'un s'en va ou est absent, etc., ça ne mette pas le souk dans ton truc. Et à la fois, ça te rapporte des revenus intéressants, c'est-à-dire un niveau de revenu qui fait que, bon, bah, toi, tu as un bon salaire, mais aussi tes collaborateurs. Et que finalement, tu as une espèce comme ça. Et c'est ce que j'appelle le business de poche. Pour moi, c'est la taille idéale du business. Et un business comme ça, si tu le structures bien, si tu mets les bons rituels en place, les bons tableaux de bord, etc., eh bien, effectivement, ça devient une journée par semaine. Et c'est là que tu peux envisager... Alors, c'est peut-être pas aussi rentable qu'un business où tu serais 5 jours par semaine, parce que forcément, tu compenserais par ton énergie, le temps que tu passes, la présence d'une structure managériale. Mais finalement, ça t'empêche de développer encore ou simplement de profiter. Hein, tu as le droit, quoi. Je veux dire, tu as monté un truc, tu as le droit de profiter. Et en fait, moi, l'idée, je trouve, ce qui est intéressant, c'est de monter son business jusqu'à ce niveau-là. Et une fois qu'il est à ce niveau-là, bah, what's next ? Bah, ça veut dire que tu peux démarrer un autre business ou en racheter un, etc. etc. Et en fait, finalement, c'est ça qui va te permettre de développer ta petite galaxie d'entreprise et finalement d'être de plus en plus antifragile parce que si une des entreprises a des difficultés, l'autre l'aura moins si tu as bien choisi des secteurs complémentaires, etc., etc. Il y a juste une question avant que tu nous parles justement de ce que tu vas faire maintenant avec tout ce temps libre. j'ai vu que tu avais pris la formation tableau de bord dynamique et recruteur d'élite.
Tout à fait. Alors, tableau de bord dynamique obligatoire avec la gestion de projet. Donc, j'adore ça déjà à l'origine, j'adore ça, tout ce qui est KPI, etc. OKR, je ne le maîtrisais pas forcément et c'est devenu une évidence aussi parce que le pilotage par objectif. Donc, les KPI, moi, pour la gestion des boîtes, pour la gestion des sociétés, hein, je parle à la fois de CRC, mais aussi Soprop, BTP Transformation et même la nouvelle structure que je suis en train de racheter, pour pouvoir piloter ça, et c'est super visuel. Alors bon, j'ai pas mal d'indicateurs quand même. Là, je suis en train de recruter une nouvelle personne qui, elle, est calée en fichier Excel, donc elle va pouvoir me faire des beaux tableaux de bord avec des beaux curseurs. Ouais. Obligatoire. Alors, à la fois les KPI sur les structures, donc j'ai une vision. Donc là, les KPI sur le général, je vais les travailler une fois par mois.
Ouais.
Donc sur les chiffres d'affaires, sur la trésorerie, sur alors la boîte de nettoyage, ça va être sur les consommations essence, sur les achats produits, etc. Le volume salarial. Sur la formation, donc pareil, les mêmes indicateurs, mais beaucoup d'OKR par objectif. Donc, l'objectif, c'est-à-dire que nous, si tu veux, quand on va sortir une formation, bon, c'est un peu comme tout le monde, je pense, mais je sors une formation, ça marche par activité, par module, un peu comme toi, tu as ton module, tu as tes activités. Ouais. C'est de suite, on sort telle formation, on fait un plan de formation en mettant toutes les activités. Donc là, la dernière qu'on est en train de sortir, il y a plus de 700 activités à faire. Donc, c'est 700, ouais, on a, ouais, c'est 2000 heures, on a 2000 heures de formation en ligne hein, actuellement.
Ah, ouais, ouais, d'accord.
C'est aussi, c'est vrai que je t'ai pas parlé de chiffres, mais on est.
Ouais, t'as industrialisé la production de formation, super.
On a intégré 7000 stagiaires l'année dernière, là, on va doubler cette année, on va récupérer. Alors, c'est aussi pareil, grâce aux objectifs pour revenir sur la société, la structuration de la société, parce que cette formation m'a permis de libérer du temps et de travailler sur la boîte. Donc, de me poser, travailler sur de la rétention, tous les points faibles, tu les vois, après tout te saute aux yeux. Quand tu poses bien ta société sur une feuille de papier, sur la rétention, sur le développement de la boîte, etc., tu vois où tu pêches, ne serait-ce qu'avec les OKR. Hein. Donc, les OKR sur la DV, c'était combien de devis j'arrivais à... Je sais maintenant combien de devis on arrive à valider, sur combien d'appels. Donc, sur la formation, pour le pôle formateur, c'est on a 700 activités. OK, chaque semaine, à combien on est. Ça nous permet de connaître aussi une date. C'est-à-dire que quand tu fais ta réunion stratégique, tu te dis, ouais, il y a 700 activités. En un mois, ça ne rentrera pas. Attendez, attention, il me faut un mois et demi. OK, pas de problème. Vous avez besoin d'un mois et demi. On repilote. On se revoit dans un mois et demi. Mais attention, il faut que ce soit fait. Donc, chaque semaine, tu vois, bon, on en est là. C'est bon, les bloquants, t'attends vite de te rectifier. C'est ton schéma de sortie de route hein, qui est génial. C'est vrai qu'au lieu d'attendre la sortie de route, tu fais un petit virage, tu recadres direct. Chose qu'on n'avait pas auparavant. J'attendais un mois et demi et j'arrivais frustré. Attendez, pourquoi vous avez fait ça? Comment vous n'avez pas réfléchi à ça? Mais... Ouais. Alors,
T'avais pas, ah, t'avais pas une, boucle, une boucle de feedback courte, en fait, qui te permet de corriger en temps réel ce qui se passe. Voilà. Il y a un autre effet. Alors, tu as dit un truc qui est très, très important, hein, que je voudrais souligner. C'est ce qu'on voit dans la formation d'entrepreneurs libérés, d'ailleurs. C'est le premier truc auquel il faut penser une fois qu'on a passé les premières traversées du désert où, de toute façon, on doit bosser parce qu'il faut recruter, etc. C'est effectivement de sortir de sa boîte pour regarder sa boîte de l'extérieur. Et de travailler sur ta boîte et pas dans ta boîte. Et en fait, c'est à partir du moment, de ce moment-là où tu arrives à faire ça, avec les bonnes techniques évidemment, que tu vas réussir à développer ta boîte. Parce que tout d'un coup, tu n'es plus dedans. Tu es à l'extérieur, tu la regardes et tu vois tout ce qui pourrait être amélioré, tout ce qui marche bien, tout ce qui marche moins bien. Et il y a un deuxième volet dont tu n'as pas parlé, peut-être parce que ça te reste à faire dans la formation tableau de bord dynamique, c'est le fait que quand tu crées des indicateurs, en fait, tu crées une forme de vision de l'entreprise que tu peux donner à tes collaborateurs. C'est-à-dire que tu as tes indicateurs à toi pour piloter, ça c'est OK, hein, tu en as parlé, mais tes collaborateurs aussi, puisque tu attires leur attention sur tel indicateur, ça fait que naturellement, parce que c'est humain, on appelle ça du nudge, en anglais nudge c'est un coup de coude pour t'aider gentiment mais sans te le dire à aller dans la direction qu'on attend de toi, eh bien tes indicateurs, si tu les fais bien, si tu les présentes bien, si tu les expliques bien, si tes collaborateurs participent au reporting, mais d'une manière ludique, c'est ce qu'on apprend dans la formation, eh bien, naturellement, ça va les faire performer. Rien que le fait de leur montrer l'indicateur de la bonne manière, que ce soit eux qui le remplissent, ça va les faire performer davantage.
Alors, tu vois, j'ai quelque chose à te demander, je vais en profiter, parce que ces indicateurs, effectivement, je les ai, ils sont partagés en Drive. Par exemple, je prends pour exemple les ADV. Donc, j'ai 4 ADV qui sont à la fois au secrétariat, à la gestion des dossiers, etc., puis à la relance client. Donc, ils ont les drives partagés, tout le monde a accès à tout sur la structure. Et la problématique, c'est qu'ils sont vite déstabilisés, je trouve, et c'est aussi le retour que j'ai. Parce qu'ils me disent, ouais, Romain, c'est bien, on fait ces indicateurs-là, mais la journée, aucune journée n'est pareille. C'est-à-dire que vous nous demandez de remplir des documents, mais finalement, enfin, vous nous demandez de remplir des tableaux, mais finalement, voilà, on a une suractivité de téléphonique, on n'a pas eu le temps de relancer tout ça. Donc, je les rassure en leur disant, ben oui, justement, ça me permet, moi, de voir s'il va falloir renforcer votre... Parce que je vous dis, je ne suis pas à côté de vous, je ne vois pas, donc ça me permettra à la fois de voir s'il faut que je renforce l'équipe, etc., de repiloter, de mettre des outils peut-être différents aussi pour la gestion du lead entrant, tout ça. Mais j'ai des personnes, ça dépend vraiment le profil de la personne que j'ai en face. D'autres qui vont bien l'assimiler, d'autres se dire, bon, il me met des indicateurs, est-ce que c'est parlant, pas parlant. Donc, est-ce qu'il faut peut-être faire une réunion bien spécifique d'indicateurs, de gestion de...
En fait, moi, ce que je te conseille quant à ça, c'est un... Par exemple, tu me dis, c'est sur le drive. C'est bien le drive parce que ça peut partager, mais ce n'est pas visuel. Et moi, je dis que l'idéal, c'est d'avoir peut-être pas tous tes indicateurs, mais les indicateurs les plus importants. Déjà, il faut que tu les détermines. Il n'y en a peut-être qu'un seul qui est important, ou deux. Et tu peux les changer chaque mois en fonction des priorités, ou chaque 90 jours en fonction des priorités. Moi, je conseille peu d'indicateurs, 2-3, et plutôt des indicateurs qu'on remplit soi-même à la main sur un tableau dans le lieu où on travaille, quitte à ce qu'à la fin de la journée... prennent en photo le truc qui te l'envoie, on s'en fout de la techno, on n'a pas besoin d'être le maître du monde avec tous ces indicateurs partout. Après, dans la formation, je te montre aussi un logiciel qui permet de balancer les indicateurs sur des écrans, mais bon, là, on est un peu dans la science-fiction. Moi, honnêtement, ce n'est pas un truc que j'utilise beaucoup. Moi, j'aime bien les trucs à la main, etc. Pourquoi ? Parce que c'est les gens qui le remplissent, c'est facile à remplir. Il ne faut pas que ça leur prenne plus de 5 minutes, et plutôt à la fin de la journée. En disant, tiens, la fin de journée, c'est on a fait tant de chiffres d'affaires et il y a 3 indicateurs et c'était et c'est ce que j'expliquais juste à l'instant, c'est qu'en faisant ça, en fait, tu vas les focaliser sur les bonnes choses qui sont importantes dans leur travail. Par exemple, le chiffre d'affaires ou le nombre de contrats signés ou le nombre de la qualité, c'est-à-dire le nombre de contrats qui vont jusqu'au bout. Enfin, après, je ne connais pas ton métier, si tu veux. Mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Faut descendre, je dirais... le nombre d'indicateurs en disant « Ouais, mais bon,
À moins que ce ne soit pas un vrai problème. Hein. Après, il faut discuter. Faut faire les cinq pourquoi c'est difficile, pourquoi et remonter à la source. Mais j'irais globalement, tel que tu me le présentes, il y a peut-être un peu beaucoup d'indicateurs, je ne sais pas combien il y en a. Il y a peut-être trop de temps accordé aux indicateurs. Il faut vraiment que ça prenne... vaut mieux avoir un indicateur, deux indicateurs tous les jours qui prennent 5 minutes, que d'avoir 10 indicateurs toutes les semaines qui prennent une demi-heure à remplir. C'est beaucoup moins motivant. Donc, il faut que tu essayes de vraiment d'intégrer avec elles ou eux, je ne sais pas si c'est une population féminine ou masculine, ou les deux. Et puis, trouver cette simplicité, ce qui va leur convenir le mieux, et puis qu'il y ait une personne, par exemple, qui soit chargée chaque jour de faire l'indicateur. Le lundi, c'est Marie... le mardi, c'est Jean-Pierre, et ainsi de suite. Tu vois, il y a peut-être besoin d'une petite discussion. Mais ce qu'il faut retenir, les guidelines où il ne faut pas transiger, c'est un minimum d'indicateurs plutôt qu'une palanquée d'indicateurs, quitte à les changer régulièrement, que ce soit visible en local et que ce soit très facile à remplir. Et évidemment que ça corresponde à tes objectifs majeurs. Et là, à mon avis, tu vas retrouver de la fluidité.
De la fluidité.
Ouais. Moi, je mets un exemple dans la formation d'un tableau pour mes magasiniers. Je crois que j'ai mis une photo
avec la ligne, le seuil minimum à atteindre, etc.
C'est ça. Je veux dire, nous, ça fait, 10 ans que c'est en place ce truc-là. On l'a pas changé. Ça marche.
Alors, je t'avoue qu'on a acheté les tableaux, mais ils sont pas installés au mur.
Bon, ben voilà.
Voilà.
Mais notre conversation n'aura pas été inutile.
Tout à fait. Donc ça va être la prochaine étape là-dessus. Pour parler de recrutement, je vais rebondir sur le recrutement.
Ouais, ça m'intéresse de savoir où t'en es avec RDE.
Ça a été un gros point d'auto-formation, parce que la complexité, c'est que maintenant, les gens, je pense qu'ils sont tous des pros de l'entretien. Tu as l'entretien et si tu le gères mal, que tu ne comprends pas, que tu n'es pas formé, c'est clairement de la formation. Là, c'est pareil, j'invite des gens qui ne sont pas à l'aise là-dessus à se former. Enfin, il n'y a pas de honte à avoir. Et c'est une méthodologie. J'ai suivi à la lettre, là, c'est pareil, j'ai dit tyrambique, hein, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai suivi à la lettre la méthodologie du recrutement. D'ailleurs, ça a étonné des collaboratrices à moi, donc j'ai intégré du monde un peu sur le processus de recrutement. Ouais. Ne serait-ce que, par exemple, là, récemment, on a recruté des ADV. On a renforcé l'assistante de vente. Je crois qu'en décembre, j'avais intégré du monde et c'était une catastrophe. Donc, tu fais perdre du temps. Déjà, c'est une catastrophe de se séparer de la personne très rapidement. C'est-à-dire que la personne qui se rencontre, elle ne va pas du tout aller dans ce que tu veux avoir toi au sein du service.
Ouais.
Donc, tu fais perdre du temps à tes propres collaborateurs qui sont en train de former une fille qui va partir dans quelques temps. Donc, il n'y a rien de pire. Toi, en perso, en tant que dirigeant, tu passes des nuits blanches à te dire « Mince, demain, je vais devoir annoncer à quelqu'un qui va quitter la boîte. Enfin, » la pire chose d'un entrepreneur, c'est de licencier quelqu'un. Hein. Donc là, je dis « Bon, Romain, vite, formation recrutement, vois un peu comment ça fonctionne. » Je parlais un peu avec la femme de mon associé DRH, d'ailleurs. Elle me dit « Non, mais attends, t'es obligé, il faut que tu structures, il faut que tu poses des questions, etc. Tu ne dois rien laisser au hasard. » Et il y a quelque chose qui est génial dans ta formation, c'est que tu t'obliges, et ça, je l'ai noté en rouge à tous mes collaborateurs quand on fait les systèmes de recrutement. En gros, c'est de trouver une excuse, de dire non à la personne. Clairement. Mais ça a changé complètement nos process et ma vision de l'entretien. Donc, on a tout mis en place. Les tests aussi, les tests, par exemple, pour une ADV, le test, on fait un test d'écriture en direct, mail. Mm. On appelle, mettez-vous devant un ordinateur, on va vous faire une dictée, vous
envoyez un mail
direct. Et moi, j'avais ma collègue, elle me dit, mais attends, attendez, je vais pas leur demander ça. Je dis, si, on demande, tant pis, on peut pas. Maintenant, on laisse plus rien au hasard, je veux plus perdre de temps sur l'intégration d'un salarié. Et rien que ça, donc le dernier recrutement, on fait de la DV, on reçoit 250 CV, on en retient 20, assistante, malheureusement, 250 CV, pourtant tous bien ciblés, hein, donc on était bien, l'annonce était bonne. On en retient 40, donc on fait système, oui, peut-être, non. Elle me dépouille quand même, je laisse me dépouiller un maximum les CV, pour ce sens, je pense
que... c'était ça ma question où je voulais en venir, c'est... Le fait d'avoir un process, non seulement ça te permet de gagner du temps, toi, la formation elle dure 5 heures, hein.
Donc en 5 heures, tu as un process, tu sais ce que tu dois faire. Mais je trouve que le plus, une fois que tu maîtrises bien le process, c'est qu'ensuite, tu peux tout le déléguer à tes collaborateurs pour les laisser faire le recrutement ou déléguer des parties. Et du coup, tu gagnes encore plus de temps. Moi, je conseille toujours que le dernier entretien, ce soit quand même toujours le manager ou le boss qui le fasse, parce que là, il y a une question de valeur. Et là, il faut... Voilà. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, du coup.
Justement, parler dans ton sens. Donc, on recrute ça. Donc, elle me dépouille tout sur le dernier volume de recrutement, 250 CV. Il m'en reste 40. On fait le test. Sur les 40, on fait le test. Déjà, on en élimine. Il nous en reste plus que 12. Parce que des fautes, mauvaise syntaxe, etc. Donc déjà, moi, content, j'arrive à la collaboratrice, je vais regarder. Vous voyez, c'est efficace. Finalement, on a bien fait de faire ça. Et après, donc on en retient 4 ou 5. 4 ou 5. Ouais. Entretien téléphonique de la collaboratrice, plus le mien.
Ouais.
Je les reçois. Et là, on suit à la lettre tes conseils ou ce qu'il faut mettre en place, de ne pas parler de la boîte.
Ouais.
Et ça a été... je trouve que c'est extraordinaire. Parce que, alors déjà, c'est compliqué, hein, effectivement, parce que comme tu dis, tu vas parler de la boîte, alors on peut en parler comme on fait là, on peut en parler pendant 2-3 heures, et tout est biaisé. C'est-à-dire qu'après, ta réflexion est biaisée. Et ça m'a permis, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est-à-dire que je reçois, donc on retient 4 filles, déjà je reçois les deux premières, je recrute. Vraiment, d'entrée. Là, dans ma tête, je dis, ouais, ça fonctionne. Tu vois, je dis, c'est ce que je voulais, c'est ça que je cherche, etc. Les deux sont chez moi. Les deux sont bien de rentrer. J'en ai une qui rentre là dans le premier d'ailleurs. Bon, et personne suivante, malheureusement, qui était aussi efficace, mais bon, il faut faire des choix. Et une dernière, je lui dis d'entrée, je fais voilà, bon, maintenant, entretien, avant-dernier entretien, le but est de. Je cherche des soft skills, je cherche une qualification et un savoir-être au sein de la boîte. On ne parlera pas de la société. Et je vois la fille derrière son masque qui lève les yeux, qui se met en arrière et qui se dit pour qui il se prend ce mec-là. Je suis tombé face à lui. Et de suite, j'ai dit, ça ne matchera pas en termes de soft skills et de ressenti, etc. J'ai dit, allez, c'est fini. Ouais. J'ai perdu l'entretien. Et effectivement, donc, quand on l'appelle pour lui dire que malheureusement, on ne retient pas sa candidature, elle a dit à la collaboratrice, elle dit, bon, de toute manière, je ne suis pas venu dans votre boîte. Mais par contre, j'aimerais savoir pourquoi vous ne me prenez pas.
Voilà,
et puis écoute, les recrutements, donc maintenant on les bascule que comme ça. Là, j'ai donc deux personnes qui sont rentrées, j'ai encore trois personnes à faire rentrer là dans le mois à venir. Ça va être des formateurs, donc je sais pas comment on va réfléchir. On pose toujours ces 5 questions là, hein, ces 5 questions. Chaque collaborateur pose la même question parce que du coup, j'ai l'assistante qui le reçoit, j'ai moi, on a les mêmes questions, et à la fin on se retrouve, oui, non, et on a exactement le même ressenti des personnes. Donc, donc on arrive à valider et bon, je touche du bois, pour l'instant ça fonctionne et ça s'est pas
arrêté. Hyper important. Ne faites pas monter dans le bus des personnes qui n'ont pas monté. C'est une catastrophe. Il vaut mieux, vraiment l'état d'esprit de cette formation, c'est de dire vaut mieux louper un bon candidat que de faire entrer un mauvais. Ne faites pas rentrer un candidat sur lequel vous avez un doute. Et en fait, la formation...
Mais tu peux dire, tu sais que ça dans ta formation et tu as déjà tout compris. En fait, c'est exactement ça le thème, hein, comme tu dis.
Toute la technique, voilà, tout est fondé là-dessus, tout découle de cette phrase jusqu'au bout. Bon, après, il y a la manière de le faire, évidemment. Une fois qu'on a dit ça, on a juste dit l'essentiel, mais après, il y a la technique, comment on fait, comment on organise ça, etc. Bah écoute, c'est super. Alors, du coup, c'est quoi l'avenir pour toi, Romain?
L'avenir sur CRC Formation, écoute, pour l'instant les feux sont en vert, on touche du bois, j'ai travaillé un peu sur la rétention de la boîte, comment conserver les clients, les faire revenir, etc. Parce qu'on a tendance à faire que du one-shot, ils sont tous satisfaits, mais il faut trouver des produits pour qu'ils reviennent. Et la rétention, j'ai travaillé sur les appels d'offres aussi, donc on a remporté un très bel appel d'offres qui va nous faire encore doubler le CA, donc... un peu stressé, là on a clôturé 1,1 million, et on a eu, c'est un appel d'offres de 2,4 millions sur les 3 prochaines années, donc 800 000, donc là gros stress, gros stress quand même, bon stress, mais alors tout le monde est content, parce qu'on a répondu à cet appel d'offres pour faire aussi... à la demande de certains salariés, hein, c'est vrai qu'ils disent, on aimerait bien faire ça, bon ok. Donc là-dessus, gros travail. Puis effectivement, il y a l'acquisition d'une société à venir. J'ouvre une autre branche. J'ouvre une autre branche aussi, CACES, enfin BTP, branche BTP au sein de CRC Formation, qui
Ah, ok.
s'appellera qui aura sous le nom d'une autre entreprise pour pas mélanger les genres.
Ouais.
CRC, on est beaucoup sur Internet, à travers la métropole, etc. Je reviens un peu au niveau local, toulonnais, en mettant une branche BTP. Si tu veux, il me fallait un local, et dans le local, il y avait une société, une petite boîte. Et j'ai dit, ben, j'achète les deux, j'achète le local et la boîte. Et
Ok.
puis voilà, donc j'ai ce projet-là. Donc on a déjà tout mis en place. On n'attend plus que la signature. Et puis voilà, donc ça n'a rien à
Génial.
voir. C'est dans le traitement de l'eau. Le
D'accord.
traitement de l'eau.
Ok.
Et une boîte qui a 60 ans d'existence. Donc ça va être sympa. C'est la première fois que je me lance dans l'acquisition là-dessus. Mais avec tous les outils, enfin, je veux dire, toi, j'ai déjà calé les KPI.
Ouais.
Mais réellement, hein, enfin, tous les KPI, les
En fait,
objectifs, on sait quoi
t'as
faire,
ton
tout est fait.
système de management
Qui est en
qui
place.
reste plus qu'à mettre en place, quoi.
Il n'y a que sur la boîte de nettoyage où je ne touche pas, parce que j'ai un associé qui est dirigeant et je ne veux pas du tout arriver à mettre. Ça fonctionne très bien comme ça aussi. C'est une boîte,
Alors,
ça fait 1 an et demi, mais est compliqué les boîtes de service, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses,
ouais.
mais.
Alors, il y a une règle, moi, que j'applique quand je fais des rachats d'entreprise, j'en parle, d'ailleurs, je vais en parler dans le live. Pour dans le live du ciel jeudi, c'est quand ça marche, on touche pas.
Quand ça marche, on touche
QCM,
pas.
OTP. C'est-à-dire que
QCM,
quand tu
OTP, quand ça marche, OTP, voilà.
rachètes, tu es toujours tenté de dire ah, je vais tout changer. Non. En tout cas, au début, si ça marche tout seul, c'est rarement le cas, hein, parce qu'en général, quand tu rachètes, bah, tu as un dirigeant qui sort et donc la boîte, elle va plus pouvoir marcher comme elle marchait avant. Mais tout ce qui marche, c'est-à-dire toutes les choses qui peut-être te paraissent bizarres au départ, mais qui fonctionnent, surtout touche pas, quoi. C'est pas l'urgence. L'urgence, c'est de structurer ce qui marche moins bien, quoi. D'apporter ta valeur ajoutée, pas de vouloir tout changer par le principe de tout changer. Ça, c'est important aussi. Bah écoute, c'est top, top, top. Je te remercie infiniment. Et puis,
Merci,
bah,
merci,
déjà,
merci.
pour la vie super sympa. À propos des formations, moi ça me touche toujours beaucoup, et puis c'est à travers ça que j'ai de l'énergie pour continuer et développer, etc. Mais aussi, tu vois, avoir quelqu'un comme ça, très positif, qui a galéré, puis après il a réussi, enfin, tout ça, je trouve que c'est une image très positive de l'entrepreneuriat et du management. Et merci pour ça, quoi. Parce que je pense que ton témoignage, il peut inspirer des gens, pas forcément des gens qui ont envie de monter leur boîte. On n'a pas tous envie de monter sa boîte. D'ailleurs, je pense que toi, si tu avais eu l'occasion de faire de l'intrapreneuriat, peut-être que tu l'aurais fait, si on t'avait laissé ta chance, pardon. Et puis voilà, je trouve que de toute façon, un manager, quelque part, c'est l'entrepreneur de son équipe. Donc voilà, j'espère que tout ce que tu as partagé servira. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez continuer la discussion avec Romain, bah, Romain, il est sur le forum. Son poste, si vous voulez retrouver, vous tapez dans le moteur de recherche du forum feedback perso égale, oui, ça marche. On mettra. Et puis, on attend une photo, hein, Romain.
Je vais m'y atteler sans problème. Je mettrai
Ok.
ça et puis encore, mais réellement merci. C'est un produit qui fonctionne, qui marche et travailler sur vous-même aussi et ça vous permettra de travailler bien sur vos boîtes. Je pensais avant de commencer le podcast, je me suis dit, tiens, si je devais synthétiser ce podcast, je suis passé du chaos psychologique au paradis entrepreneurial, quoi. Vraiment,
Oh,
en 2 ans.
génial.
Mais voilà, tu vois, si je pouvais synthétiser ça, et je ne connais pas Cédric personnellement, et puis,
Ah non, non,
simplement,
non,
après, enfin, voilà, une suite à l'idée.
voilà.
Non,
On
merci.
vient de faire connaissance, hein, quasiment.
Voilà, merci
Donc,
pour tout, et puis plein de bonnes choses, et on reste à l'écoute de tes podcasts, parce que je suis persuadé qu'on entendra encore plein de choses et qui nous permettront de faire avancer rapidement nos structures. Merci pour tout,
super.
Cédric.
C'est moi qui te remercie. Ce sera le mot de la fin. À bientôt Romain sur le forum ou ailleurs et très belle réussite.
Merci. À toi
Déjà effective et puis je te souhaite une très belle réussite pour l'avenir aussi.
À toi aussi. À
À
bientôt.
une prochaine. Salut. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a intéressé, qu'elle t'a donné envie d'aller plus loin. Et justement, si tu veux aller plus loin, je te donne rendez-vous
sur le forum. Il suffit que tu suives l'adresse qui est en descriptif. Je te dis à bientôt et je serai ravi d'échanger avec toi sur le forum. À bientôt, au revoir. Depuis que j'en parle, on a de plus en plus d'avis 5 étoiles et de commentaires positifs sur les applis de podcast. C'est génial, ça nous fait remonter dans les rankings, ça fait que de plus en plus de personnes écoutent notre message, et puis en plus, évidemment, ça nous fait hyper plaisir. Donc, continuez, si ce n'est pas encore fait, laisse un avis positif, donne-nous un avis 5 étoiles sur ton appli de podcast, ça fait super plaisir, et c'est bien pour tout le monde. Merci beaucoup.